Et puis on s'envole en Chine maintenant avec vous, Esna Caillot. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez beaucoup travaillé sur les différentes cultures, vous avez travaillé également sur les religions. Et vous êtes l'auteur de ce livre, Le paradoxe du poisson rouge, une voie chinoise pour réussir. C'est aux éditions Saint-Simon. Et alors moi, j'ai vraiment adoré ce livre parce que d'abord, il y a beaucoup de choses qui me parlent sur cette culture chinoise, mais aussi parce que c'est plein de sagesse, hein, au fond.
Tout à fait, tout à fait. Mais c'est quand même un monde à l'envers d'une autre.
Oui, c'est assez extraordinaire. Finalement, quand on vous lit, on comprend pourquoi c'est compliqué de se comprendre avec les Chinois, parce qu'on est totalement dans des paradoxes incroyables. Nous, on est très dans la pensée rationnelle. Eux, ils sont au contraire dans une ouverture qui est pas du tout dans l'intellect. Hein.
Non, pas du tout, oui. C'est-à-dire que le cogito pour Descartes n'est pas du tout valorisé. Nous avons tendance à considérer que la pensée, c'est la grandeur de l'homme. Eh bien, pour les Chinois, pour la sagesse chinoise, c'est la folle du logis. Et on peut passer une vie entière à satisfaire les exigences de cette folle. Donc, sur tous les plans, il faut se vider du désir de gagner, parce que le désir de gagner entraîne l'angoisse de perdre, y compris dans les rapports charnels, sexuels. Je vous ai écouté avant de venir, là, et ça m'a frappé de voir, même sur le plan des rapports sexuels, il y a eu beaucoup, beaucoup de différences.
Oui, par exemple, chez nous, on est très dans la notion de performance. J'imagine qu'en Chine, c'est une notion qui leur est assez étrangère.
Totalement. L'accent est mis sur, je dirais, les préliminaires. Il faut au contraire ne pas chercher l'orgasme, l'éjaculation. D'ailleurs, c'est secondaire. C'est tout à fait secondaire. C'est pourquoi le mot impuissant n'existe pas dans la langue chinoise, puisque jusqu'au soir de sa vie, on peut pratiquer des rapports charnels. Il est même vivement recommandé par les taoïstes de jouer, hein, de participer à ces jeux. Voilà.
Donc... On va revenir sur ces différences entre la Chine et le monde occidental, mais je voudrais d'abord, Esna Caillot, vous présenter un petit peu, parce que ça peut intéresser ceux qui nous écoutent. Donc vous êtes née d'un père turc et d'une mère danoise, hein, donc déjà il y a un choc de culture important. Et ce qui est intéressant, vous êtes beaucoup intéressé aux religions, et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, vous avez eu une sorte de fulgurance lorsque vous étiez lors d'un voyage sur le Nil. Hein.
Oui,
j'ai lu ça dans cet ouvrage. Vous pouvez nous raconter ?
Oui, j'ai découvert lors de ce voyage, en ayant une guide extraordinaire, qu'au-delà de nos différences, il y a un fond commun de la nature humaine, donc il y a un fond commun des religions. Donc aujourd'hui, il est important, je crois, de mettre l'accent autant sur les dissonances que les résonances, et même davantage montrer ce qui nous lie les uns aux autres, parce que, quelles que soient nos origines, nous partageons tous les mêmes aspirations, hein, réaliser ce pour quoi on est fait, évidemment aimer et être aimé, l'amour est universel, également, je dirais, partout, dans toutes les cultures, on aspire à cette légèreté d'être également, etc. Donc, si nous sommes très différents par la culture, nous sommes très conditionnés, évidemment, beaucoup plus qu'on imagine par nos traditions culturelles et religieuses, mais au-delà de ces conditionnements, il y a quand même un fond commun de la nature humaine. C'est pourquoi Saint-Exupéry disait qu'il n'y a personne au monde dont une part ne soit son amie.
Oui, il y a beaucoup de citations dans ce livre. C'est vraiment un petit livre que je conseille, hein, Le paradoxe du poisson rouge, parce que c'est un livre en plus qui fait assez résonance à ce qui se passe dans notre pays actuellement. On ne cesse d'entendre ce mot à toutes les sauces, laïcité, laïcité, laïcité. Oui. Moi, ça m'agace un peu, parce que je pense qu'une des choses essentielles pour l'être humain, c'est de donner du sens à son existence. Et on ne peut pas, être totalement épanoui et serein jusqu'à la fin de sa vie si on n'a pas un tant soit peu de spiritualité.
Oui,
c'est là où vous êtes intéressante, parce que vous êtes intéressée aux différentes religions, et finalement elles reposent toutes sur la même base au fond.
Oui, et c'est intéressant pour les sagesses chinoises que sensualité et spiritualité ne s'opposent pas. La sensualité ne peut pas se développer dans un corps dont les sens sont atrophiés, et inversement, pour développer sa volupté, il faut développer son souffle spirituel. Et donc, il n'y a pas de péché de la chair, contrairement à notre culture. Je dirais même que pour les Chinois, cette notion de péché de chair, c'est un affront fait aux parents qui nous ont donné des dons. Voilà ce que disent les Chinois, puisque, comme vous le savez, c'est le culte des ancêtres oblige. Et il y a un très vieux, un livre du XVIIIe siècle, qui a pour titre « La chair comme tapis de prière ». Donc oui. Vous voyez, c'est quand même...
Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que comme ça, a priori, on n'imagine pas les Chinois être dans un érotisme et une sensualité très développée,
non, parce
a priori, qu'ils sont finalement très pudiques.
Ils sont très très pudiques. Une émission comme la vôtre, que j'ai écoutée juste avant de venir, c'est impensable, puisque en même temps, c'est une culture implicite. On dit les choses, les mots, toujours on dit les choses sous une forme métaphorique, poétique. Par exemple, le vagin, c'est la porte du jade. La fellation, c'est jouer de la flûte du jade. Voilà.
Mais vous avez raison, quand on lit certains manuels de sexologie, on va les appeler comme ça, chinois, c'est des termes magnifiques. On parle de la tige, on parle...
La tige de jade, par exemple, l'acte charnel, l'acte sexuel, c'est la rencontre de la tige de jade et de la grotte de corail. Enfin, c'est ce que nous appelons de ce mot, que je trouve très laid, cunilingus.
Excusez-moi, je vous en prie.
Je l'utilise.
Ça reste souvent sur la langue, c'est vrai.
Je préfère le terme chinois du...
Comment ils appellent ça, les Chinois ?
L'apivoine, qui est butinée par le papillon. Voyez, et je pense profondément qu'une sexualité coupée de sa dimension poétique devient glauque. C'est-à-dire, elle cesse d'être une source d'enchantement. À trop chercher le pourquoi du comment, pourquoi je jouis pas, il faut absolument que je jouis, ça devient même une obligation. Eh bien, le côté ludique, romantique, disparaît. Et je trouve ça bien dommage.
Mais c'est intéressant parce que vous parlez pas spécialement de la sexualité dans ce livre, mais c'est intéressant que vous vous adaptiez à cette émission et je vous en remercie, Esna Caillou. Mais on voit bien que en Chine, ce qui est important, c'est le chemin, c'est pas le but.
Ce n'est pas le but, mais c'est le cheminement, c'est tous les préliminaires, je dirais, de l'amour. Pour la sagesse chinoise, celui qui est tendu vers un but, que ce soit la performance, être un as de la sexualité, et bien c'est source de tension qui dilapide sa précieuse énergie et en même temps ne profite pas de l'instant présent. De même, ce qui est contrairement à notre culture qui fait l'éloge de la rapidité, c'est l'éloge de la lenteur. C'est-à-dire que, par exemple, en amour, 5 minutes douche comprise à bannir. C'est, je dirais même, pour eux, c'est source de maladie.
Alors,
jamais faire l'amour quand on est stressé, quand on est angoissé, quand on est à plein de soucis dans la tête. Il faut commencer par se vider la tête de tous ces...
D'ailleurs, vous dites, chez nous, on cherche à développer nos muscles. Les Chinois, eux, cherchent à développer leur souffle. On en est là.
Et le souffle, c'est le souffle.
La respiration.
La respiration, mais le souffle, c'est à la fois le souffle, je dirais, physique, psychique et corporel. Là encore, on retrouve cette logique qui unit ce que nous considérons comme des contraires.
Alors, moi, j'ai beaucoup utilisé le Tao à un moment donné dans ma vie pour bien comprendre. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que finalement, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Et dans notre monde occidental, on aime bien mettre les choses dans des cases et justement opposer aussi riches aux pauvres, la droite à la gauche, etc. En Chine, on doit paraître un peu stupide, là.
Parce que nous avons une forme de pensée rationnelle, donc qui... pour mieux analyser, sépare et oppose. Donc on est tout le temps dans l'opposition. C'est ou bien ou mal, ou vrai ou faux.
Alors que tu m'aimes ou tu m'aimes pas.
Tu m'aimes, tu m'aimes pas. Tout à fait.
Alors que c'est pas si simple.
Non, c'est pas si simple parce que ce qui est intéressant, c'est que pour eux, les contraires ne s'opposent pas, les contraires coopèrent. Et c'est illustré par le yin-yang. Hein. C'est deux poissons enlacés, le yin-yang, et vous voyez que l'œil de l'un a la couleur de l'autre. Hein. Ce qui montre qu'il n'y a jamais de yin absolu et jamais de yang absolu. Et donc, toutes les maladies viennent d'un déséquilibre entre le yin et le yang.
Alors, on s'ouvre un peu quand même, par exemple, à la médecine chinoise. C'est des choses qu'on entend de plus en plus dans notre mode occidental. Est-ce que vous avez l'impression, Esna Kayo, justement, qu'on va un petit peu se laisser imprégner de tout ce qu'il y a de bien dans leur culture ? Parce qu'après tout, il y a aussi des choses qui sont moins bien. Hein. On n'est pas là non plus pour dire que leur culture est meilleure que la nôtre, mais il y a des choses quand même qui sont intéressantes. Est-ce que vous avez l'impression que c'est en train d'aller dans ce sens ?
Tout à fait. Grâce à la mondialisation, grâce aux rencontres qu'elle génère, eh bien, je dirais que de plus en plus de personnes que je rencontre, avec qui je travaille, pour qui je travaille, ont réveillé le chinois qui sommeille en eux. Mais inversement, également, les Chinois aussi, aujourd'hui, savent manger avec les baguettes et avec les fourchettes. Donc, c'est le bon côté de la mondialisation, c'est de s'inspirer de voilà les autres cultures.
Il y a Jérémy qui est avec nous, qui a 36 ans et qui voudrait se pose la question de l'infidélité. Est-ce qu'ils ont la même vision que nous en Europe? Bonjour Jérémy.
Bonjour.
On vous écoute,
allez-y. Bonjour Brigitte, bonjour Esna.
Bonjour.
En fait, ma question, c'est... je vois qu'ici, dans les pays européens, c'est plutôt, entre guillemets, facile d'être infidèle. On est tout le temps tenté, tous les jours. Enfin, moi, je suis personnellement quelqu'un qui est avec ma femme depuis 10 ans et qui est très, très fidèle. J'ai jamais été voir nulle part ailleurs parce que j'y vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de gâcher 10 ans de bonheur pour une relation comme ça qui sera de courte durée, quoi qu'il arrive. Mais je voulais savoir pourquoi aujourd'hui, par exemple, dans les pays européens, on est plus tenté, par exemple, par les réseaux chat, par exemple, pour aller vers l'Asie. Parce que je remarque, hein, dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui sont attirés par les femmes asiatiques ou vice-versa. Et je voulais savoir ce qui faisait aujourd'hui qu'il y avait cette telle différence entre l'Europe et l'Asie au niveau de l'infidélité, en sachant que là-bas, c'est très strict, comme vous l'avez dit, c'est une histoire de culture et que c'est plus, je pense, la peur de défier la culture d'être infidèle, en fait.
La fidélité existe, mais on le fait très. Les femmes, les hommes prennent un amant beaucoup plus discrètement que chez nous. C'est toujours cette culture du non-dit, de la pudeur, de pas mettre les choses en avant.
On s'affiche pas, quoi.
On s'affiche pas. Et voilà.
Un site de rencontre pour personnes infidèles, c'est impensable en Chine. Par exemple.
Pour le moment, hein. Mais bon, ça va peut-être venir, j'en sais rien.
Ils vont peut-être prendre aussi le pire et le meilleur de chez nous. Hein.
De toute façon, le risque est toujours de prendre le pire ou le meilleur, mais on espère le meilleur, voilà.
Non, parce qu'en fait, tout à l'heure, j'écoutais Sandro qui avait réagi justement sur l'infidélité, qui se disait quelqu'un d'assumer son infidélité et qui voulait quelque part le proclamer. Et puis en fait, voilà, en Europe, c'est le problème qu'on a, je pense, c'est qu'on dit assumer être infidèle. Et puis la première chose qu'on dit, c'est j'espère que ma femme n'écoute pas. Et ainsi de suite, je suis content d'être infidèle, mais en gros, il vaut mieux pas qu'on le sache. Et puis, alors que j'ai pas l'impression que dans les pays asiatiques.
Mais je crois, moi j'ai envie de revenir sur ce que vous dites aussi dans cet ouvrage, Le paradoxe du poisson rouge, Esna Kayo. À un moment, vous dites, en Chine, au fond, il y a une conception assez floue du bien et du mal. On dit plutôt qu'un acte est bon ou qu'un acte est mauvais. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, l'infidélité. On ne peut pas dire que c'est bien ou que c'est mal. Non. On peut dire que la manière dont on va vivre sa fidélité ou son infidélité, c'est un acte qui est bon ou qui est mauvais. Est-ce que ça vous va comme
plutôt,
réponse?
On dit surtout positif et négatif.
Oui,
on dit,
absolument.
Voyez, parce que dans le positif et le négatif, il n'y a pas d'exclusion de l'un par l'autre, hein, comme dans le bien et le mal. Le bien fait l'objet d'un jugement sans appel. Hein. Il y a la ligne jaune. hein, chez nous, avec le bien mal. Tandis que, voilà. Et aussi, il y a une très grande différence en matière d'amour. C'est-à-dire, ils ont une autre conception de l'amour que nous. Le mot passion n'existe pas. C'est quand même très interpellant, hein.
Oui, c'est
alors
vrai.
Que toute la littérature occidentale célèbre le coup de foudre, la passion amoureuse. Toute la littérature chinoise, je dirais, parle des ravages de l'amour exalté. Hein, donc c'est très différent.
Ils sont plus sages que nous, quoi.
J'en sais rien.
Sur ce plan-là, en tout cas, il semblerait.
Vous écoutez le meilleur de L'AEL, Amour et vous, en podcast.
Alors, il y a huit grandes voies en Chine, hein, huit grands principes, je ne sais pas comment...
Vertus.
Voilà, et donc vous les passez en revue dans ce livre. Il y a des choses vraiment intéressantes. Et puis, je crois qu'il y a aussi cette notion d'ouverture, de rester toujours dans l'incertitude. Bon, demain, on verra bien. C'est aussi cet instant présent qu'il faut vivre, et puis demain, on verra bien.
Hein. C'est ça.
C'est pas très français, ça. Hein.
Non. Nous, on est à la recherche de certitude. Et eux, ils sont comme des poissons dans l'eau. D'ailleurs, ce que nous appelons le monde réel, ils l'appellent le monde flottant. Et donc, le changement pour eux est un bien. Tout change, sauf le changement, disait Bouddha. Hein, la seule loi qui ne change pas, c'est celle qui énonce que tout change. Donc, ils sont très à l'aise dans le changement. Ils sont comme des poissons dans l'eau, voilà, et dans l'incertitude. Et je pense que c'est ce qui fait leur force aujourd'hui.
Oui, d'ailleurs, on voit cette capacité d'adaptation du peuple chinois. Là, oui. Ils sont en train de toute façon de devenir la première puissance du monde. Et en même temps, avec une capacité d'adaptation qui est assez étonnante. Hein.
C'est ça. Mais
grâce à cette ouverture.
Oui,
quoi.
Et en même temps, ils ont en tête que, si vous voulez, à un moment, c'est ce qui donne une force aux entrepreneurs chinois, c'est que, bon, une fois c'est difficile, une fois c'est facile. Et donc, même le déclin décline. Voilà, c'est ce que j'ai appris en Chine. C'est un beau message d'espoir. Même le déclin décline. On parle beaucoup en France, là, sur le déclin. Mais il faut, voilà.
C'est ce que vous dites à moi.
Ce n'est que momentané, notre déclin.
La pensée en Europe est en crise, mais ne le sait pas.
C'est ça.
Oui, c'est vrai que ça donne, enfin, je ne sais pas, quand on vous lit, on a un peu l'impression qu'il y a beaucoup de choses à changer pour arriver justement à faire évoluer la situation actuelle qu'on est en train de vivre.
La première chose, je pense, c'est de prendre conscience des limites de la pensée rationnelle. La pensée rationnelle, c'est très important puisque grâce à elle, on a Internet, etc.
Mais on a inventé plein de choses grâce à ça,
je rends hommage à la pensée rationnelle, mais dans un monde de plus en plus complexe, mouvant, elle révèle ses limites. Parce que la pensée rationnelle a du mal à saisir le dynamisme de la vie. Elle est peu apte à saisir les signaux faibles, hein, tous ces petits signes qui annoncent le changement. Et puis elle est trop lente aujourd'hui, trop lente, car le temps qu'elle élabore de nouvelles lois, de nouvelles théories, la réalité est déjà métamorphosée.
Donc finalement, il faut être ce que j'essaye de tous les jours d'ailleurs de faire, hein, c'est d'être en relation avec ses émotions, ses sentiments, son ressenti,
voilà.
Et ne pas toujours repasser par l'intellect qui
voilà.
Finalement veut mettre les choses dans les bonnes
c'est
cases.
Ça. Hein. Comme je dis, raisonnez moins pour raisonner RE davantage. Hein. Raisonnez moins RAI, ressentir davantage. Parlez moins, observez davantage. Et surtout, cherchons moins à vouloir avoir raison. Pour la sagesse chinoise, vouloir avoir raison, c'est de s'enfermer dans son raisonnement et devenir sourd et aveugle aux signaux faibles. Sourd aux idées nouvelles, aveugle aux signaux faibles.
Mais même dans le couple,
naturellement.
On le sait, à partir du moment où on est dans le besoin d'avoir raison par rapport à son partenaire, quel que soit le domaine d'ailleurs, que ce soit sur le plan de la vie quotidienne, de la manière d'élever les enfants ou même de gagner sa vie, on ne peut plus être dans une communication. On est forcément dans un rapport de force.
Hein. C'est ça, parce que le débat, vous voyez, c'est vouloir convaincre, alors que le dialogue, c'est vouloir apprendre.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est vous dites, Esna Kayo, que finalement en Chine, le philosophe, ça n'existe pas.
Non.
Alors, chez nous, les philosophes, depuis la nuit des temps, sont quand même les grands penseurs.
Tout à fait, parce que la philosophie nous vient des Grecs. Ce sont les Grecs qui ont inventé l'art de conceptualiser. Hein. Alors qu'il n'y a pas de philosophe en Chine, il y a des sages. La différence entre le philosophe et le sage chinois, il est sans idées. Hein. Il est sans idée préétablie pour mieux s'ouvrir à l'impossible.
Le seul pour lequel vous avez un peu d'indulgence, il me semble, c'est Nietzsche. Hein.
Oui, tout à fait.
Vous le citez plusieurs fois, oui.
Il y a d'autres philosophes pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Hein. Mais Nietzsche est en fait très... En fait, chinois, sans le savoir.
Oui, bien sûr, sans le savoir, on l'imagine bien. Alors, nous, en France, on se moque beaucoup de Confucius, et pourtant, c'est un grand sage, mais on s'en moque beaucoup, je trouve, en France, non ?
Bah, on le trouve parce qu'on a une image de Confucius psychorigide. On a, voilà, si vous voulez, mais c'est de la faute des Chinois, parce que pendant un certain temps, ils ont complètement... montrer un homme moralisant, etc., alors que
c'est pas sa pensée. Oui.
Il suffit de lire les entretiens de Confucius, il se prend pas au sérieux, il est léger, il a plein d'humour. Voilà, c'est intéressant.
Vous pensez, Snakayo, que c'est possible qu'un occidental puisse vivre en totale harmonie avec une ou un Chinois vraiment de pur sucre, ou est-ce que c'est compliqué?
Oh ben
c'est vraiment un choc des cultures.
C'est un choc des cultures. De toute façon, les mélanges, des mariages de cultures différentes sont évidemment un peu plus difficiles. C'est plus facile d'épouser quelqu'un de sa porte et de sa sorte, comme dit mon mari. Bon, parce que bon. Mais en même temps, c'est une source d'enrichissement, hein, d'épouser quelqu'un d'une autre culture.
Et qu'est-ce que vous pensez de la Chine aujourd'hui ? Comment elle va évoluer, à votre avis ?
Je pense qu'elle ne va pas conquérir le monde, c'est pas dans sa culture. Elle est très différente des Japonais parce qu'elle ne valorise pas les militaires. Mais ce qu'elle veut, c'est saisir au jour le jour les opportunités qui se présentent pour renforcer sa puissance et surtout son rang parmi les grandes nations. Elle a perdu la face au 19e siècle en devenant une quasi-colonie de l'Occident. Et donc, vous savez, dans tout l'Orient, perdre la face est une humiliation terrible. Et donc, aujourd'hui, ils font tout pour retrouver cette place qu'ils avaient encore au début du XVIIIe siècle.
Et puis, on a Valérie qui pose une question. Donc, Valérie, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à votre invité.
Donc, vous êtes aujourd'hui homosexuel et vous aimeriez savoir comment c'est perçu en Asie et tout particulièrement en Chine, évidemment.
Ouais, voilà. Et puis, si je peux me permettre, j'aurais aimé réagir j'ai un tout petit moment par rapport au début de l'émission. Là, j'ai entendu pas mal de témoignages sur le lâcher prise, sur la sexualité en général, prendre du plaisir, avoir mes orgasmes. Donc en fait, moi je pense que la sexualité se construit tout au long d'une vie. Donc c'est pour donner espoir à pas mal de gens et que rien n'est jamais perdu. Voilà.
Bien sûr, mais ça c'est très chinois. Hein.
Tout à fait. Pour avoir voyagé en Asie, je me retrouve bien et votre invité est assez exceptionnel à surmonter mes journées.
Ben, merci pour elle.
Merci.
Alors l'homosexualité, comment c'est vécu ? On n'en parle pas, j'imagine, ça fait partie des non-dits.
C'est ça, ça fait partie des non-dits, on n'en parle pas. Par contre, les textes de sexualité, les textes taoïstes, hein, de l'art de la chambre à coucher, ne jettent pas l'opprobre dessus. Hein. Bien au contraire, l'homosexualité féminine comme masculine fait partie, je dirais,
des mystères de la vie et de
l'humain. Oui, et puis source de jouissance, hein, c'est pas... Mais effectivement, en Chine aujourd'hui, et comme jadis d'ailleurs, on n'en parle pas. C'est toujours cette fameuse pudeur.
Mais donc, on a intérêt, quand on est homosexuel et qu'on vit en Chine, à ne pas le montrer, à rester caché, c'est ça ?
Pas caché, mais discret. De même un homme et une femme évitent de s'embrasser sur la bouche. Hein. Dans les jardins publics, c'est très intéressant. Ils chantent, ils dansent, tout ce que vous voulez. Mais encore aujourd'hui, je trouve que c'est assez rare de voir des gros baisers dans la bouche.
Il y a une pornographie en Chine
interdit. Le gouvernement.
Elle est interdite.
Oui.
Donc sous le manteau, il doit peut-être y avoir en effet des choses qui circulent. Mais
ils n'ont pas besoin que ce soit sous le manteau. Il suffit d'acheter un traité érotique ancien voilà. Hein. Ça, c'est pas interdit d'acheter des textes anciens.
D'accord.
Et puis de toute façon, vous avez des petites statuettes en ivoire qui représentent
toutes les positions du Kama Sutra.
Dans le Kama Sutra, toutes les positions sont présentées dans les musées.
Hein. Mais tourner un film avec deux personnes qui font l'amour, c'est interdit en Chine.
Mais
je pose la question.
Ça dépend le degré, c'est toujours c'est l'excès qui est interdit. Hein.
C'est ça, oui.
Il y a certains films, je trouve, où c'est presque gynécologique hein, chez nous. Bon.
Donc pas de pornographie en Chine. Et même la pornographie occidentale n'est pas exportée en Chine, donc.
Non, peut-être sous le manteau, ça, j'en sais rien. Il y a peut-être des réseaux.
Avec Internet, hein. On imagine bien.
Oui, voilà, peut-être.
Mais il y a... Non,
ça, je ne sais pas.
Vous n'êtes pas...
parce que quand j'y vais, c'est surtout pour mon travail, donc...
oui, mais je posais la question parce que ça paraissait intéressant. Merci Valérie, je crois qu'on a répondu à votre question. Finalement, il me semble, sous une apparence comme ça, moins tolérante que dans le monde occidental, ils sont finalement peut-être plus tolérants que nous.
Mais tout dépend qu'est-ce qu'on met derrière le mot tolérance. Moi, j'aime pas ce mot tolérance parce que ça veut dire supporter.
Je préférais respect.
Respect parce que la racine du mot respect veut dire tourner la tête pour regarder. Et donc, c'est quand même. Je trouve qu'on devrait davantage prendre du temps pour regarder l'autre.
En même temps, il y a quand même eu toute une polémique sur les droits de l'homme, etc., juste avant les Jeux Olympiques en Chine. Donc c'est vrai que c'est un peu contradictoire, hein, votre discours.
Les droits de l'homme, même si l'état de droit se développe, c'est une culture qui met depuis Confucius l'accent sur les devoirs. Le groupe, encore aujourd'hui, est plus important
que l'individu.
Et c'est là où, je pense, l'Occident peut leur apporter cette très belle idée, je dirais même qui vient de Jésus, hein, de valeur infinie de la personne humaine. Parce que en Chine, encore aujourd'hui, l'homme n'est qu'une simple pièce d'un puzzle. Il n'a de valeur que relié ensemble.
Oui, d'où le... on comprend à ce moment-là pourquoi tuer un homme, ça n'a pas finalement grande importance. Ce qui est important, c'est que le pays continue dans la bonne direction. Hein.
Osons le dire. Non, tuer un homme de son réseau, c'est grave. Mais tuer un homme qui n'appartient pas à son réseau, on s'en fiche.
Oui. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Ça s'appelle Le paradoxe du poisson rouge. C'est aux éditions Saint-Simon. Merci beaucoup, Esna Caillot.
Sur RMC, ne ratez rien de Laëlle Amourez-vous. En podcast avec l'appli RMC et sur rmc.fr. sur rmc.fr